Colabrognon de Romain Rolland, sixième partie. Chapitre 9. La maison brûlée. À la mi-août. Noterons-nous ce aujourd'hui? C'est un rude morceau. Il n'est pas encore tout à fait digéré. Allons, vieux, du courage. Ce sera le meilleur moyen de le faire passer. On dit que pluie d'été ne fait point pauvreté. À ce compte, je devrais être plus riche que Crésus, car il ne cesse de pleuvoir cet été sur mon dos. Et me voici pourtant sans chemise et sans chausse, ainsi qu'un Saint-Jeannot. À peine je sortais de cette double épreuve, Glody était guérie, et ma vieille femme aussi, l'une de sa maladie et l'autre de la vie, quand je reçus des puissances qui gouvernent l'univers. Il doit y avoir là-haut une femme qui m'en veut. Que diable lui ai-je fait? Elle-même, parbleu! Un furieux assaut, d'où je sors nu, battu et moulu jusqu'aux os. Mais c'est le principal, enfin, avec tous mes os. Bien que ma petite fille fût à présent remise, je ne me pressais pas de regagner le pays. Je restais auprès d'elle, jouissant encore plus qu'elle de sa convalescence. Un enfant qui guérit, c'est comme si l'on voyait la création du monde. Tout l'univers vous semble frais, pondu et laiteux. Donc, je flânais, écoutant distraitement les nouvelles qu'apportaient, s'en allant au marché, les commères. Lorsqu'un jour, un propos me fit dresser l'oreille. « Vieux baudet qui voit venir la trique de l'ânier. » On disait que le feu avait pris à Calamcy, dans le faubourg de Beuvron, et que les maisons flambaient comme des margotins. Je ne pus obtenir aucun autre renseignement. À partir de ce moment, je fus, par sympathie, sur des charbons assis. On avait beau me dire « Reste tranquille, les mauvaises nouvelles sont prestes comme l'hirondelle. S'il s'agissait de toi, tu le saurais déjà. Qui parle de ta maison? Il y a plus d'un âne en Beuvron. » Je ne tenais plus en place. Je me disais « C'est elle. Elle brûle, je sens le roussi. » Je pris mon bâton. Je partis. Je pensais « Bon Dieu de bête, c'est la première fois que je quitte Clamcy sans rien mettre à l'abri. » Dans tous les autres cas, aux approches de l'ennemi, j'emportais dans les murs, de l'autre côté du pont, mes diolards, mon argent, les travaux de mon art dont je suis le plus fier, mes outils et mes meubles, et ces brimborions qui sont laids, encombrants, mais qu'on ne donnerait pas pour tout l'or de la terre, parce qu'ils sont les reliques de nos pauvres bonheurs. Cette fois, j'ai tout laissé. Et j'entendais ma vieille, qui, de l'autre monde, criait contre ma stupidité. Moi, je lui répondais, « C'est ta faute! C'est pour toi que je me suis tant pressée. » Après nous être bien tous les deux chamaillés, cela m'occupa du moins une partie du chemin. Je tâchais de nous convaincre que je m'inquiétais pour rien. Mais malgré moi, l'idée revenait, comme une mouche, se poser sur mon nez. Je la voyais sans cesse, et une sueur froide me rigolait le long de l'échine et des reins. Je marchais d'un bon train. J'avais passé Villiers, et je commençais de monter la longue côte boisée, quand je vois sur la pente une carriole qui venait, et dedans, le père Jojo, le meunier de Moulot, qui, me reconnaissant, s'arrête, lève son fouet et crie « Mon pauvre gars !» Ce fut comme si je recevais un coup dans l'estomac. Je restais, bouche bée, sur le bord de la route. Il reprend « Où tu vas ? Rebrousse, mon colas, n'entre pas dans la ville, tu te ferais trop de bile. Tout est brûlé, rasé, il ne te reste plus rien. » L'animal, à chaque mot, me tordait les boyaux. Je voulus faire le brave, j'avalai ma salive, je me raidis, je dis « Pardi, je le sais bien !»« Alors » fait-il vexé, « qu'est-ce que tu vas chercher ?» Je réponds « Les débris. »« Il ne reste rien, je te dis, rien, rien, pas un radis. » Jojo, tu exagères. Tu ne me feras pas croire que mes deux apprentis et mes braves voisins ont regardé brûler ma maison sans tâcher de retirer du feu quelques marrons, quelques meubles, comme on fait entre frères. Tes voisins, malheureux, ce sont eux qui ont mis le feu. Du coup, je fus assommé. Il me dit triomphant, « Tu vois bien que tu ne sais rien. » Je n'en voulais pas démordre, mais lui, sûr à présent de me conter le premier la mauvaise nouvelle, il se mit, satisfait et contrit, à narrer la grillade. « C'est la peste, » dit-il, « ils sont tous affolés. Aussi, pourquoi, messieurs de la municipalité et de la châtellenie, échevins, procureurs, nous ont-ils tous quittés ? Plus de bergers, les moutons sont devenus enragés. De nouveaux cas du mal survenant en Beuvron, on a crié « Brûlons les maisons empestées !» Sitôt dit, sitôt fait. Comme tu n'étais pas là, ce fut naturellement la tienne qui commença. On y allait de bon cœur, chacun y mettait du sien. On croyait travailler pour le bien de la cité. Puis on s'excite l'un l'autre. Quand on se met à détruire, je ne sais pas ce qui se produit. On est saoul. Tout y passe, on ne peut plus s'arrêter. Quand ils eurent mis le feu, ils dansèrent autour. C'était comme une folie. Sur le pont de Beuvron, ils dansent. Si tu les avais vus. Voyez comme on danse. Si tu les avais vus. Peut-être qu'avec eux, toi-même aurais dansé. Tu penses si le bois que tu avais à l'atelier flambait, pétaradait. Bref, on a tout brûlé. J'aurais voulu voir cela. Cela devait être beau, dis-je. Et je le pensais, mais je pensais aussi, je suis mort, ils m'ont tué. Ceci, je me gardais de le dire à Jojo. Alors, ça ne te fait rien ? Dit-il, l'air mécontent. Il m'aimait bien, le brave homme, mais on n'est pas fâché, sacrée espèce humaine, de voir de temps en temps son voisin dans la peine, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de le consoler. Je dis, pour ce beau feu, c'est dommage qu'on n'ait pas attendu la Saint-Jean. Je fis mine de partir. Et tu y vas tout de même? J'y vas. Bonjour, Jojo. Bougre d'original! Il fouetta son cheval. Je marchais, ou plutôt j'avais l'air de marcher, jusqu'à ce que la voiture disparût au détour. Je n'aurais pu faire 10 pas. Les jambes m'entraient dans le ventre. Je tombai sur une borne, comme assis sur un pot. Les moments qui suivirent furent de mauvais moments. Je n'avais plus besoin de faire le fanfaron. Je pouvais être malheureux, malheureux tout mon sou. Je ne m'en privais point. Je pensais, j'ai tout perdu, mon gîte et l'espérance d'en refaire jamais un autre, mon épargne amassée jour par jour, sou par sou, avec cette lente peine qui est le meilleur plaisir, les souvenirs de ma vie encrassés dans les murs, les ombres du passé qui semblent des flambeaux. Et j'ai perdu bien plus, perdu ma liberté. Que deviendrai-je maintenant? Il me faudra loger chez un de mes enfants. Je m'étais pourtant juré d'éviter à tout prix cette calamité. Je les aime, parbleu. Ils m'aiment, c'est entendu. Mais je ne suis pas si sot que je ne sache que tout oiseau doit rester dans son nid, et que les vieux sont gênants pour les jeunes, et gênés. Chacun songe à ses œufs, à ceux qu'il a pondus, et ne se soucie plus de ceux d'où il est venu. Le vieux qui s'obstine à vivre est un intrus quand il prétend se mêler à la couvée nouvelle. Il a beau s'effacer, on lui doit le respect. Oh diable, le respect! C'est la cause de tout le mal. On n'est plus leur égal. J'ai fait tout mon possible pour que mes 5 enfants ne soient pas étouffés par leur respect pour moi. J'y ai assez réussi. Mais quoi que vous fassiez, et malgré qu'ils vous aiment, ils vous regardent toujours un peu en étranger. Vous venez de contrées où ils n'étaient pas nés, et vous ne connaîtrez pas les contrées où ils vont. Comment pourriez-vous donc vous comprendre tout à fait? Vous vous gênez l'un l'autre, et vous vous en irritez. Et puis, c'est terrible à dire, l'homme qui est le plus aimé ne doit que le moins possible mettre l'amour des siens à l'épreuve. C'est tenter Dieu. Il ne faut pas trop demander à notre espèce humaine. De bons enfants sont bons, je n'ai pas à me plaindre. Ils sont encore meilleurs quand on n'a pas besoin de recourir à eux. J'en dirais long si je voulais. Enfin, j'ai ma fierté. Je n'aime pas reprendre leur pâté à ceux à qui je l'ai donné. J'ai l'air de leur dire « Payez !» Les morceaux que je n'ai pas gagnés me restent dans la gorge. Il me semble voir des yeux qui comptent mes bouchées. Je ne veux rien devoir qu'à ma peine. Il me faut être libre, être maître chez moi, y entrer, en sortir, selon ma volonté. Je ne suis bon à rien quand je me sens humilié. Ah, misère d'être vieux, de dépendre de la charité des siens. C'est encore pis que de ses concitoyens, car ils y sont forcés. On ne peut jamais savoir s'ils le font de plein gré, et l'on aimerait mieux crever que de les gêner. Ainsi, je gémissais, souffrant dans mon orgueil, dans mon affection, dans mon indépendance, dans ce que j'avais aimé, les souvenirs du passé envolés en fumée, dans tout ce que j'avais de meilleur et de pire. Et je savais que quoi que je fisse, j'avais beau me révolter, par cette unique voie, il me faudrait passer. J'avoue que je n'y apportais aucune philosophie. Je me sentais misérable, tel un arbre qu'on a scié au ras de terre et tranché. Comme, assis sur mon pot, je cherchais quelque chose autour où m'accrocher, non loin de moi je vis, voilée par les cheveux des arbres d'une allée, la tourelle à créneaux du château de Quincy. Et je me souvins soudain de tous les beaux travaux que depuis 25 ans j'avais mis là-dedans, des meubles, des boiseries, de l'escalier sculpté, de tout ce que ce bon seigneur Philbert m'avait commandé. Fameux original. Et il m'a fait quelquefois diablement enrager. Est-ce qu'il ne s'est pas un beau jour avisé de me faire sculpter ses maîtresses en robe d'Ève et lui en peau d'Adam, d'Adam gaillard, galant, après la venue du serpent? Et dans la salle d'armes, n'eût-il pas fantaisie que les têtes de cerf sculptées en panoplie eussent la physionomie des bons cocus de la contrée? Nous en avons bien ri. Mais le diable n'était pas facile à contenter. Lorsqu'on avait fini, on devait recommencer. Et quant à son argent, on le voyait rarement. N'importe, il était capable d'aimer les belles choses, en bois tout comme en chair, et presque de la même manière. C'est la bonne, on doit aimer l'œuvre d'art comme on aime sa maîtresse, voluptueusement, de l'esprit et des membres. Et s'il ne m'a pas payé, le ladre, il m'a sauvé. Car je surnage ici, quand là-bas j'ai péri. L'arbre de mon passé est détruit, mais ses fruits me restent. Ils sont à l'abri des gelées et du feu. Et j'eus l'envie de les revoir et d'y mordre, à l'instant, afin de reprendre goût à la vie. J'entrai dans le château. On m'y connaissait bien. Le maître n'était pas là. Mais sous le faux prétexte de mesures à prendre pour de nouveaux travaux, j'allais où je savais que je trouverais mes enfants. Il y avait plusieurs ans que je ne les avais vus. Tant qu'un artiste se sent de la vigueur aux reins, il engendre et ne pense plus à ce qu'il a engendré. D'ailleurs, la dernière fois que j'avais voulu entrer, M. de Quincy, avec un rire bizarre, m'en avait empêché. Je me dis qu'il cachait sans doute quelque drôlesse, quelque femme mariée. Et comme j'étais bien sûr que ce n'était pas la mienne, je n'en pris nul souci. Et puis, avec les lubies de ces grands animaux, on ne discute pas. C'est plus sage. À Quincy, nul n'essaie de comprendre le maître. Il est un peu timbré. Je montai donc bravement par le grand escalier. Mais je n'avais pas fait 10 pas que, comme la femme de Lot, je restais pétrifiée. Les grappes de raisin, les branches de pêcher et les lianes fleuries, qui s'enroulaient autour de la rampe sculptée, étaient déchiquetées à grands coups de couteau. Je doutais de mes yeux, j'empoignais à pleine paume les pauvres mutilés. je sentis sous mes doigts leurs blessures écrites. Poussant un gémissement et le souffle coupé, quatre à quatre, j'escaladai les marches. Je tremblais maintenant de ce que j'allais trouver. Mais cela dépassait ce que j'imaginais. Dans la salle à manger, dans la salle des armures, dans la chambre à coucher, toutes les figurines des meubles et des boiseries avaient qui le nez coupé, qui le bras, qui la cuille, qui la feuille de vigne. Sur les panses des bahuts, le long des cheminées, sur les cuisses effilées de colonnes sculptées, s'étalaient en balafre des inscriptions profondes au couteau. Le nom du propriétaire, quelques pensées idiotes, ou bien la date et l'heure de ce travail d'Hercule. Au fond de la grande galerie, ma jolie nymphe nue de lionne, qui s'appuie du genou sur le cou d'une lionne velue, avait servi de cible. Son ventre était troué par des coups d'arquebuse. Et partout, au hasard, des coups et des coupures, des copeaux rabotés, des taches d'encre ou de vin, des moustaches ajoutées ou de sales facéties. Enfin, tout ce que l'ennui, tout ce que la solitude, tout ce que la bouffonnerie et la stupidité peuvent souffler d'incongruité au cerveau d'un riche idiot, qui ne sait qu'inventer au fond de son château, et n'étant bon à rien, ne peut rien que détruire. S'il avait été là, je crois que je l'aurais tué. Je geignais, je soufflais du fond de mon gosier. Je fus un long moment à ne pouvoir parler. J'avais le cou rouge et les veines du front qui saillaient. Je riboulais les yeux ainsi qu'une écrevisse. Enfin, quelques jurons réussirent à passer. Il était temps, un peu plus et j'allais étouffer. La bonde, une fois partie, bon sang, je m'en suis donné. 10 minutes d'affilée et sans reprendre haleine, j'ai sacré tous les dieux et dégorgé ma haine. Ah, oh, chien ! Criai-je. Fallait-il que j'amenasse dans ta bauge mes beaux enfants afin que tu les torturasses, mutilasses, violasses, souillasses et compissasses ? Hélas, mes doux petits, enfantés dans la joie, vous sur qui je comptais pour être mes héritiers, vous que j'avais fait sains, robustes et dodus, pourvus de membres bien charnus, sans qu'il y manquât rien, vous qui étiez fabriqués du bois dont on vit 1000 ans, dans quel état vous retrouvais-je ? Éclopé, estropié, du haut, du bas, du mi-temps, de l'avant, de la proue et de la poupe, de la cave et du grenier, plus couturé de balafre qu'une bande de vieux pillards qui reviennent de la guerre. Faut-il que je sois le père de tout cet hôpital ? Grand Dieu, exauce-moi, accorde-moi la grâce. Peut-être ma prière te semble superflue, de ne pas m'en aller, mort, en ton paradis, mais en enfer, près de la broche où Lucifer rôtit les âmes des damnés, afin que de ma main je tourne et je retourne le bourreau de mes enfants, enfilé par le fondement. J'en étais là quand le vieil Andoche, un laquais que je connaissais, vint me prier de mettre un terme à mes mugissements. Tout en me poussant vers la porte, le brave homme essayait de me consoler. « Est-il possible, disait-il, de se mettre en ces états pour des morceaux de bois? Que dirais-tu s'il te fallait vivre comme nous avec ce fou? Vaut-il pas mieux qu'il se divertisse? C'est son droit, avec des planches qu'il t'a payées qu'aux dépens de bons chrétiens comme toi et moi. Eh ! Répliquai-je, qu'il te bâtonne. Crois-tu que je ne me ferais pas fesser pour un de ces morceaux de bois que mes doigts ont animés? L'homme n'est rien, c'est l'œuvre qui est sacrée. Triple assassin, celui qui tue l'idée. » J'en eusse dit bien d'autres, et de cette éloquence. Mais je vis que mon public n'en avait rien compris, et que j'étais pour Andoche presque aussi fou que l'autre. Et comme, en ce moment, je me retournais encore sur le pas de la porte, pour, une dernière fois, embrasser le spectacle de ce champ de bataille, le burlesque des choses, de mes pauvres dieux sans nez et de leur Attila, d'Andoche aux yeux placides qui me prenaient en pitié, et de moi, grosse bête, qui perdais ma salive à geindre, soliloquée devant des soliveaux, me traversa la tête Froute comme une fusée. Si bien qu'oubliant du coup ma colère et ma peine, je ris au nez d'Andoche ahuri et partis. Je me retrouvai sur la route. Je disais, cette fois, ils m'ont tout pris. Je suis bon à mettre en terre. Il ne me reste que ma peau. Ouais, mais aussi, sangbleu, il reste ce qu'il y a dedans. Comme cet autre assiégé, répliquant à celui qui, s'il ne se rendait, le menaçait de tuer ses enfants. Si tu veux, j'ai ici l'instrument pour en fabriquer d'autres. J'ai le mien, ventre bleu. Ils ne me l'ont pas pris. Ils ne peuvent me le prendre. Le monde est une plaine aride où çà et là poussent les champs de blé que nous, artistes, avons semés. Les bêtes de la terre et du ciel viennent les becqueter, mâcher et piétiner. Impuissants à créer, ils ne peuvent que tuer. Rongez et détruisez, animaux. Foulez aux pieds mon blé, j'en ferai pousser d'autres. Épis mûrs, épis morts, que m'importe la moisson? Dans le ventre de la terre fermentent les grains nouveaux. Je suis ce qui sera et non ce qui a été. Et lorsqu'un jour viendra où ma force s'éteindra, où je n'aurai plus mes yeux, mes narines charnues et le goulot dessous où l'on descend le vin et où est bien pendue ma langue frétillarde, quand je n'aurai plus mes bras, l'adresse de mes mains et ma frisque vigueur, quand je serai très vieux, sans sang et sans bon sens, ce jour-là, mon brognon, c'est que je ne serai plus là. Va, ne t'inquiète pas. Vous imaginez-vous un brognon qui ne sent plus? Un brognon qui ne crée plus? Un brognon qui ne rit plus? Et qui ne fait plus feu des quatre fers à la fois? Non, pas. C'est qu'il sera sorti de sa culotte. Vous pouvez la brûler. Je vous abandonne ma loque. Là-dessus, je me remis en marche vers Clamcy. Et comme j'arrivais au haut de la montée, faisant le rodomon et jouant du bâton, de vrai, je me sentais déjà réconforté. Je fis venir à moi un petit homme blond, tout courant et pleurant, qui était Robinet, dit Binet, mon petit apprenti. Un galopin de 13 ans qu'on voyait au travail, plus attentif aux mouches qui volaient qu'aux leçons, et plus souvent dehors que dedans, à faire des ricochets ou lorgner les mollets des filles qui passaient. Je le calotais 20 fois dans sa sainte journée, mais il était adroit comme un singe, futé. Ses doigts étaient malins comme lui, bons ouvriers. Et j'aimais, malgré tout, son bec toujours ouvert, ses dents de petit rongeur, ses joues maigres, ses yeux fins et son nez retroussé. Il le savait, le gueux. J'avais beau lever le poing et jouer de mon tonnerre, il voyait le rire au coin de l'œil de Jupiter. Aussi, quand je l'avais caloté, il se secouait, tranquille comme un baudet, et puis, après, recommençait. C'était un vaurien parfait. Je ne fus donc pas peu étonné de le voir, tout pareil à un triton de fontaine, de grosses larmes en poire coulant, dégoulinant de ses yeux et de son nez. Le voilà qui se jette sur moi et m'embrasse le corps, en m'inondant le giron de ses pleurs et meuglant. Je n'y comprenais rien. Je disais, « Eh, là donc, à qui est-ce que tu en as? Veux-tu bien me lâcher? On se mouche, sacré, avant de vous embrasser. » Mais au lieu de cesser, me tenant enlacé comme le long d'un prunier, il se laisse glisser à mes genoux, par terre, et pleure de plus belle. Je commence à m'inquiéter. « Allons donc, mon petit gars, relève-toi. Qu'est-ce que tu as ?» Je le prends par les bras, je le soulève, houp là, et je vois qu'il avait une main emmaillotée, qui saignait au travers des chiffons, ses habits aiguenillés et ses sourcils brûlés. Je dis, j'avais déjà oublié mon histoire. « Drôle, tu as encore fait une sottise ?» Il gémit. « Ah, maître, j'ai tant de peine !» Je l'assieds près de moi sur un talus, je dis « Parleras-tu ?» Il crie « Tout est brûlé !» Et de nouveau, les grandes eaux se mettent à couler. Alors donc, je compris que tout ce gros chagrin, c'était à cause de moi, c'était pour l'incendie. et je ne peux pas dire le bien que cela me fit.
« Mon pauvre petit, je réplique, c'est pour cela que tu pleures. »
Il reprit. Il croyait que je n'avais pas saisi.
« L'atelier est brûlé !»«
Bien oui, c'est du réchauffé. Je la connais, ta nouvelle. Voilà 10 fois en 1 heure qu'on me la corne aux oreilles. Que veux-tu? C'est un malheur !»
Il me regarde, soulagé. Tout de même, il avait cœur gros.
« Tu tenais donc à ta cage, merle, qui ne pensait qu'au moyen d'en sortir ?»«
Va, dis-je, je te soupçonne d'avoir, friponneau, dansé comme les autres autour des fagots. »
Je n'en pensais pas un mot.
Il prend l'air indigné. « Ça n'est pas vrai » crie-t-il. « Pas vrai, je me suis battu. Tout ce que nous avons pu pour arrêter le feu, maître, nous l'avons fait. Mais nous n'étions que deux. Et Kania, bien malade... »
c'est mon autre apprenti,
avait sauté du lit, quoiqu'il tremblât de fièvre, et s'était mis devant la porte du logis. Allez donc, arrêtez un troupeau de gouris. Nous avons été balayés, roulés, foulés, boulés. Nous avions beau taper et ruer comme des sourds, ils ont passé sur nous, ainsi que la rivière, quand les vannes de l'écluse sont ouvertes. Kania s'est relevée, a couru après eux, ils l'ont presque assommée. Moi, tandis qu'il luttait, je me suis faufilé dans l'atelier en feu. Bon Dieu, quelle flambée! Tout avait pris, d'un coup. C'était comme une torche qui allongeait sa langue, blanche, rouge et sifflante, en vous crachant au nez flamèche et fumée. Je pleurais, je toussais, je commençais à cuire. Je me disais, « Robin, tu vas faire du boudin. » Tant pis, on verra bien. Hop là! Je prends mon élan, je fais comme à la Saint-Jean, je saute, ma culotte brûle et j'ai le poil grillé. Je tombe dans un tas de copeaux qui pétaient. J'en fis autant, je rebondis, je bute et je m'allonge, la tête contre l'établi. J'en restais étourdi. Pas longtemps. J'entendais autour le feu qui ronflait et ces brutes dehors qui dansaient. J'essaie de me relever, je retombe, j'étais meurtri. Je marque boude sur mes abattis. Et je vois à 10 pas votre petite Sainte Madeleine, dont le menu corps, tout nu, de ses cheveux vêtus, grassouillé, mignonné, était déjà par le feu pour lécher. Je criais « Arrêtez !» Je courus, je la pris, dans mes mains j'éteignis ses beaux pieds qui flambaient, dans mes bras l'étreignis. Ma foi, je ne sais plus ce que je fis. Je l'embrassais, je pleurais, je disais « « Mon trésor, je te tiens, n'aie pas peur, je t'ai bien, tu ne brûleras pas, je t'en donne ma parole. Et toi aussi, aide-moi, Madelon, nous nous sauverons. » Il n'y avait plus de temps à perdre. Boum, le plafond tombait. Impossible de revenir par où j'étais venu. Nous nous trouvions tout près de la lucarne ronde qui donne sur la rivière. J'enfonce du poing le verre, nous passons au travers ainsi qu'en un cerceau. Il y avait juste la place pour notre rable à tous deux. Je roule, je pique une tête jusqu'au fond du beuvron. Heureusement que le fond est près de la surface. Et comme il était bien gras et rembourré de moelle, Madeleine, en tombant, ne s'est pas fait une bosse. Moi, je fus moins heureux. Je ne l'avais point lâché. Je barbotais, empêtré, le bec au fond du pot. J'en bus et j'en mangeais plus que je ne voulus. Enfin, j'en suis sorti. Et sans plus bavarder, nous voilà tous les deux, maître. Pardonnez-moi de n'avoir pas fait mieux. »
Alors, démaillotant pieusement son baluchon, d'une veste roulée, il tira Madelon, qui montrait, souriant de ses yeux innocents et coquets, ses brûlés petons. Et je fus si ému, ce que n'avait fait pour la mort de ma vieille, le mal de ma glaudie, ma ruine et le massacre de mes œuvres, je pleurais. Et comme j'embrassais Madeleine et Robinet, je me souvins de l'autre et je dis « Et Kania ?» Robinet répondit « Il est mort de chagrin. » Je m'agenouillai sur la route, je baisai la terre, je dis « Merci, mon gars !» Et regardant l'enfant qui serrait la statue entre ses bras blessés, je dis au ciel en le montrant « Voilà mon plus beau travail, les âmes que j'ai sculptées. Ils ne me les prendront pas. Brûlez le bois. L'âme est à moi. » Chapitre 10. L'émeute. Quand l'émotion fut digérée, je dis à Robinet « Assez, ce qui est fait, voyons ce qui reste à faire. » Je lui fis raconter ce qui s'était passé dans la cité, depuis 15 ou 20 jours que je l'avais quittée, mais bref et clair, sans bavarder, car l'histoire d'hier est de l'histoire ancienne, et l'essentiel est de savoir où nous en sommes. J'appris que sur Clamecy régnait la peste et la peur plus que la peste, car celle-ci déjà semblait chercher fortune ailleurs, laissant la place aux malandrins qui, de tous les côtés, attirés par l'odeur, venaient lui arracher des doigts sa proie. Ils étaient maîtres du terrain. Les flotteurs, affamés et rendus enragés par la terreur du fléau, laissaient faire ou faisaient comme eux. Quant aux lois, elle gisait. Qui en avait reçu la garde était allé garder ses champs. De nos 4 échevins, l'un était mort, 2 avaient fui, et le procureur avait pris la poudre d'escampette. Le capitaine du château, vieil homme brave, mais podagre, n'ayant qu'un bras, les pieds gonflés, et de cerveau pas plus qu'un veau, s'était fait mettre en 6 morceaux. Restait un échevin, Raquin, qui se trouvant seul en face de ces animaux déchaînés, par peur, par faiblesse, par ruse, au lieu de leur tenir tête, crut plus sage de céder en faisant la part du feu. Du même coup, sans se l'avouer, je le connais, j'ai deviné, il s'arrangeait pour satisfaire à son âme rancunière en lâchant sur tel ou tel dont le bonheur lui faisait mal ou dont il voulait se venger, la meute incendiaire. Je m'explique à présent le choix de ma maison. Mais je dis « Et les autres, les bourgeois, que font-ils donc ?»«
Ils font, ben, » dit Binet, « ce sont des moutons. Ils attendent chez eux qu'on vienne les saigner. Ils n'ont plus de berger, plus de chiens. »
« Eh bien, Binet et moi, voyons un peu, mon gars, s'il me reste des crocs. Allons-y, mon petit. »
« Maître, un seul ne peut rien.
Peut toujours essayer. »«
Et si ces gueux vous prennent ?»«
Je n'ai plus rien, je me moque d'eux. Va donc peigner un diable qui n'a plus de cheveux. »
Il se mit à danser.
« Ce qu'on va s'amuser. Franc le fanfan, chip chop, torche lorgne, tarirarirariran, bout avant, bout avant. »
Et sur sa main brûlée, fit la roue sur la route et faillit s'étaler. Je pris un air sévère.
« Hé, Badouin, dis-je, est-ce une affaire à danser au bout d'un arbre avec ta queue ? Debout, et soyons graves, il s'agit d'écouter. »
Il m'écouta, les yeux brillants.
« Tu ne riras pas longtemps. Voilà, je m'en vas, seul à Clamecy, de ce pas. »«
Et moi ? Et moi ? » ?»«
Toi, je t'envoie en ambassade à Dornecy, avertir Mestra Nicole, notre échevin, l'homme prudent, qui a bon cœur, meilleure jambe, et s'aime mieux que ses concitoyens, mais mieux que soi, aime son bien, que l'on doit demain matin boire son vin. De là, poussant jusqu'à Sardy, tu verras en sa tour à Pigeon maître Guillaume Courtignon, le procureur. Tu lui diras que sa maison à Clamecy sera sans faute cette nuit, brûlée, pillée, etc., s'il ne revient.
Il reviendra.
Je ne t'en dis pas plus. Tu sauras bien tout seul trouver ce qu'il faut dire, et tu n'as pas besoin de leçons pour mentir. »
Le petit, se grattant l'oreille, dit
« Ce n'est pas la difficulté, mais je ne veux pas vous quitter. »
Je réponds « T'ai-je demandé ce que tu veux ou ne veux pas ?
Moi je veux, tu obéiras. »
Il discutait, je dis
« Assez !»
Et comme il s'inquiétait, ce petit, de mon sort,
« Je ne te déforme pas, lui dis-je, de courir. Quand tu auras fini, tu pourras me rejoindre. Le meilleur moyen de m'aider, c'est de m'amener du renfort. »«
Ventre à terre, dit-il, je les amènerai, suant, soufflant sur leurs bedons, le Courtignon et le Nicole, quand je devrais leur attacher aux chausses une casserole. »
Il partit comme un trait, puis s'arrêtant encore. « Maître, au moins dites-moi ce que vous allez faire. »
L'air important, avec mystère, je réponds. On verra bien.
Par ma foi, je n'en savais rien. Vers 8 heures du soir, en ville, j'arrivais. Sous des nuages d'or, le soleil rouge était couché. La nuit commençait à peine. Quelle belle nuit d'été! Mais personne pour en jouir. Pas un badaud et pas un garde à la porte du marché. On entrait comme en un moulin. Dans la grand-rue, un chat maigre rongeait du pain. Se hérissa quand il me vit, puis détala. Les maisons, aux yeux clos, montraient face de bois. Pas une voix. Je dis « Ils sont tous morts, je suis venu trop tard. » Mais voici, j'entendis que derrière les volets, on épiait au bruit de mon pas qui sonnait. Je frappais, je criais « Ouvrez !» Nul ne bougea. J'allais à une autre maison, je frappais de nouveau, du pied et du bâton. Nul n'ouvrit. J'entendis dedans un « frrrr » de souris. Maintenant, j'avais compris. Ils se tairent, les marmiteux. Feste Dieu, je m'en vais leur mordre les fesses. Du poing et du talon, je battis le tambour sur la devanture du libraire, et je criais « Eh, vieux frère, de Nice au soir, nom de nom, je vas tout casser. Ouvre donc, ouvre, chapon, je suis Brognon. » Aussitôt, comme par magie, on eût dit qu'une fée de sa baguette eût touché les croisées. Tous les volets s'ouvrirent, et je vis, tout du long de la rue du marché, au rebord des fenêtres, alignés tout du long ainsi que des oignons, des faces effarées qui me dévisageaient. Elles me regardaient, regardaient, regardaient. Je ne me savais pas si beau. Je me tâtais. Puis, leurs traits contractés soudain se détendirent. Ils avaient l'air contents. « Braves gens, comme ils m'aiment !» pensais-je. Sans me dire que leur bonheur venait de ce que ma présence, à cette heure, en ce lieu, les rassurait un peu. Lors s'engagea la conversation entre Brognon et les oignons. Tous parlaient à la fois, et tout seul contre tous, je donnai la réplique. « D'où viens-tu? Que fis-tu? Que vis-tu? Que veux-tu? Comment puis-tu entrer? Par où puis-tu passer ?» Je dis. Holà, holà, ne nous emportons pas. Je vois avec plaisir que la langue vous reste, si vous avez perdu le cœur et les jarrets. Ça, que faites-vous là-haut? Descendez, il fait bon humer le frais du soir. Vous a-t-on pris vos choses, que vous restez chambré? Mais au lieu de répondre, il demandait. Brognon, dans les rues en venant, qui as-tu rencontré?
Idiot, qui voulez-vous? Dis-je. Que je rencontre, puisque vous êtes tous au nid.
Les brigands.
Les brigands.
Ils pillent, brûlent tout.
Où cela?
En Bayonne.
Allons les arrêter. Qu'avez-vous à rester dans votre poulailler?
Nous gardons la maison.
Mais la meilleure façon de garder sa maison, c'est de défendre celle des autres.
Le plus pressé d'abord, chacun défend le sien.
« Je connais le refrain. J'aime bien mes voisins, mais je n'ai cure d'eux. Malheureux, les brigands, vous travaillez pour eux. Après les autres, vous, chacun aura son tour. »
Monsieur Raquin a dit qu'en ce danger, le mieux était de rester quoi? Faire la part du feu en attendant que l'ordre soit rétabli.
« Par qui ?»«
Par monsieur de Nevers. »
« D'ici là, sous le pont, il coulera de l'eau. Monsieur de Nevers a ses affaires. » Devant qu'il pense aux vôtres, vous serez tous brûlés. Allons, enfants, venez. Il n'a droit à sa peau qui ne la défend.
Les autres sont nombreux, armés.
On crie toujours le loup plus grand qu'il n'est.
Nous n'avons plus de chef.
Soyez-les.
Ils continuaient de jaser de l'une à l'autre fenêtre comme des oiseaux perchés. Ils disputaient entre eux, mais aucun ne bougeait. Je m'impatientais.
Allez-vous me laisser toute la nuit planté dans la rue, nez en l'air, à me tordre le cou? Je ne suis pas venu chanter la sérénade, tandis qu'avec vos dents vous battez la chamade. Ce que j'ai à vous dire ne se chante ni ne se crie sur les toits. Ouvrez-moi, ouvrez-moi, de par Dieu, ou bien je mets le feu. Allons, descendez, les mâles, s'il en reste là-haut. Les poules suffiront pour garder le perchoir.
Moitié riant, moitié jurant, une porte s'entrebâilla, puis l'autre. Un nez prudent s'aventura, suivit la bête. Et sitôt que l'on vit un mouton hors du parc, tous les autres sortirent. Ce fut à qui viendrait me regarder sous le nez.
« Et tu es bien guéri ?»«
Sain comme un chou cabu. » »«
Et nul ne t'a fait noise ?»«
Nul, hors un troupeau d'oies qui sifflait après moi. » De me voir sortir sauf de ce trouble danger, ils en respiraient mieux et m'aimaient davantage. Je dis
« Regardez bien,
ouais, je suis au complet, tous les morceaux y sont.
Non, il n'y manque rien.
Voulez-vous mes lunettes ?
Ça, voilà assez. Demain, vous verrez plus clair.
L'heure nous presse. Allons, laissons les fariboles.
Où pouvons-nous causer ?»
Gagnon dit
« Dans ma forge. »
Dans la forge à Gagnon, sentant la corne, au sol pétri par les sabots des chevaux, nous nous tassâmes dans la nuit comme un troupeau. Porte fermée. Un lumignon posé à terre faisait danser sur la voûte noire de fumée nos grandes ombres ployées au cou. Tous se taisaient. Et brusquement, tous à la fois parlèrent. Gagnon prit son marteau et frappa son enclume. Le coup troua le bruit des voix. Par la déchirure, le silence rentra. J'en profitai. Je dis.
Ménageons notre souffle. Je sais déjà l'histoire. Les brigands sont chez nous.
Bien.
Mettons-les dehors.
Ils dirent. Ils sont trop forts. Les flotteurs sont pour eux.
Je dis.
Les flotteurs ont soif. Quand ils voient d'autres boire, ils n'aiment pas regarder.
Je les comprends très bien.
Il ne faut jamais tenter Dieu, un flotteur encore moins.
Si vous laissez piller, ne vous étonnez point que tel qui n'est pas un voleur aime mieux dans sa poche voir le fruit du larcin que dans celle de son voisin.
Puis il y a partout des bons et des mauvais. Allons, comme le maître, ab aedis cindere oves.
Mais puisque monsieur Raquin, dirent-ils, l'échevin nous défend de bouger, c'est à lui qu'appartient, en l'absence des autres, lieutenant, procureur, d'assurer l'ordre en la cité.
Le fait-il ?
Il prétend...
Le fait-il, oui ou non ?
Cela se voit assez.
Alors, nous, faisons-le.
Monsieur Raquin promet que si nous ne bougeons, nous serons épargnés. L'émeute restera cantonnée au faubourg.
Et comment le sait-il ?
Il a dû faire un pacte avec eux, contraint, forcé.
Mais ce pacte, c'est un crime.
C'est, dit-il, pour les endormir.
Les endormir, eux ou bien vous ?
Gagnon frappa de nouveau son enclume. C'était son geste à lui, sa façon pour parler de se claquer la cuisse. Et dit.
Il a raison.
Tous avaient l'air honteux, peureux et furieux. Denis Saulsois, baissant le nez.
« Si l'on disait tout ce qu'on pense, on aurait long à raconter. »«
Et que ne parles-tu » fis-je. « Que ne parlez-vous ? Nous sommes entre frères. Qu'est-ce que vous craignez ?»«
Les murs ont des oreilles. »«
Quoi ? Vous en êtes là ?
Gagnon, prends ton marteau et mets-toi en travers de la porte, mon gars. » Le premier qui voudra ou sortir ou entrer, enfonce-lui le crâne dans l'estomac.
Que les murs aient ou non des oreilles pour épier, je réponds qu'ils n'auront de langue pour rapporter.
Car quand nous sortirons, ce sera sur le champ, afin d'exécuter l'arrêt que l'on va prendre.
Et maintenant, parlez. Qui se tait est un traître.
Ce fut un beau vacarme. Toute la haine et la peur refoulées éclataient comme des fusées. Il criait en montrant le poing.
« Ce coquin de Raquin, il nous tient. Le Judas nous a vendus, nous et nos biens. Mais que faire ? On ne peut rien. Il a la loi, il a la force, la police lui appartient. »
Je dis.
« Où niche-t-il ? »
À la maison de ville. Il y gîte jour et nuit pour plus de sûreté, entouré d'une garde de vauriens qui le veille. Le surveille peut-être autant qu'il veille sur lui. »
Bref, il est prisonnier. Très bien, dis-je. Nous allons de ce pas d'abord le délivrer.
Gagnon, ouvre la porte.
Il ne paraissait pas encore bien décidé.
Mais qu'est-ce qui vous arrête ?
Saul soit dit, se grattant la tête.
« C'est une grosse affaire. On ne craint pas les coups. Mais, Brognon, après tout, nous n'avons pas le droit. Cet homme, il est la loi. Marcher contre la loi, c'est, ouida, se charger d'une lourde... »
Je dis, « Responsabilité ? Eh bien, je la prends, moi. Ne t'inquiète pas. Lorsque je vois, Saul soit un coquin coquiné, je commence par l'assommer. Après, je lui demande comment est-ce qu'il se nomme. Et s'il est procureur, ou pape, ainsi soit-il.
Amis, faites de même. Quand l'ordre est le désordre, il faut bien que le désordre fasse l'ordre et sauve la loi. »
Gagnon dit, « Je viens avec toi. » Le marteau sur l'épaule, avec ses mains énormes, quatre doigts à la gauche, l'index écrasé manquait. Bigle d'un œil, noir de peau, droit de corps et large comme un tonneau, il avait l'air d'une tour qui marche. Et par derrière, on se pressait, suivant le rempart de son dos. Chacun courut dans sa boutique pour y chercher son arquebuse, son couperet ou son maillet. Et, ma foi, je ne jurerais que tel entra qui ressortit de cette nuit, faute sans doute, le pauvre homme, de trouver son harnachement. Car, pour dire la vérité, en arrivant sur la grande place, nous étions assez clairsemés. Mais ce qui reste sont les bons. Par chance, la porte de l'hôtel de ville était ouverte. Le berger était si sûr que ses moutons se laisseraient jusqu'au dernier raser la laine sans bêler, que ses chiens et lui dormaient du bon sommeil de l'innocence après avoir très bien dîné. Notre assaut n'eut donc rien, je l'avoue, d'héroïque. Nous n'eûmes qu'à cueillir, comme on dit, la pie au nid. Nous l'en tirâmes proprement, nus et sans chausse, comme un lapin sans peau. Le raquin était gras, la face ronde et rose, des coussinets de chair au front, dessus les yeux, l'air doucereux, pas bon ni bête. Il nous le fit bien voir. Dès le premier instant, il sut, à n'en pas douter, ce dont il retournait. Ce ne fut qu'un éclair de peur et de colère dans ses petits yeux gris, enfouis sous le bourrelet des paupières. Mais tout de suite, il se ressaisit, et d'une voix d'autorité, il nous demanda de quel droit nous avions envahi la maison de la loi. Je lui dis, « Pour t'arracher de son lit. » Il s'emporta. Saulsoy lui dit, « Maître Raquin, ce n'est plus l'heure de menacer. Vous êtes ici l'accusé. Nous venons demander vos comptes. Défendez-vous. » Il changea subito de musique. « Mais, chers concitoyens, dit-il, je ne m'explique ce que vous voulez de moi. Qui se plaint et de quoi ? Au risque de ma vie, ne suis-je pas resté ici pour vous garder ? Quand tous les autres fuient, seul j'ai dû tenir tête à l'émeute et la peste. Que me reproche-t-on ? Suis-je cause des maux que j'essaie de penser ? » Je dis, « Médecin avisé et fait, dit-on, plaie puante. Ainsi fais-tu, Raquin, médecin de la cité. Tu engraisses l'émeute et tu nourris la peste, et tu leur traies le pis après à tes deux bêtes. Tu t'entends avec les larrons, tu mets le feu à nos maisons, tu livres ceux que tu dois garder, tu guides ceux que tu dois frapper. Mais dis-nous, traître, est-ce par peur ou par cupidité que tu fais ce honteux métier ? Que veux-tu qu'on te mette au cou ? Quel écriteau ? Voilà l'homme qui vendit sa ville pour 30 deniers. Pour 30 deniers, pas 6 sous, les prix ont augmenté depuis l'Iscario. Ou, voici l'échevin qui, pour sauver sa peau, mit à l'encan celle de ses concitoyens. Il s'emporta et dit, j'ai fait ce que j'ai dû, ce qui était mon droit. Les maisons où la peste a passé, je les brûle, c'est la loi. Et tu taxes de peste, tu marques d'une croix les maisons de tous ceux qui ne sont point pour toi. Qui veut noyer son chien? Sans doute c'est aussi pour combattre la peste que tu laisses piller les maisons empestées.
Je ne puis l'empêcher. Et que vous fait à vous si ces pillards ensuite en crèvent comme des rats? C'est coup double, bon débarras. Il va nous dire qu'il combat la peste avec les pillards, et les pillards avec la peste. Et de fil en aiguille, il restera vainqueur sur la ville détruite. Le disais-je pas bien? Mort le malade et mort le mal, nul ne demeure que le médecin. Eh bien, maître Raquin, à partir d'aujourd'hui, nous ferons de tes soins l'économie, nous nous soignerons nous-mêmes. Et comme toute peine a droit à un salaire, nous te réservons... Gagnon dit « Ton lit au cimetière !» Ce fut comme si dans une meute un os était tombé. Sur la proie, ils se lancèrent en hurlant, et l'un criait « Nous allons coucher l'enfant !» Le gibier, par bonheur, se sauva dans l'alcôve, et, appuyé au mur, hagard, il regardait les museaux prêts à mordre. Moi, je retins les chiens. « Tout beau, laissez-moi faire !» Il restait en arrêt. Le misérable, nu, rose comme un goré, grelotté de frayeur et de frais. J'eus pitié, je lui dis. « Allons, passe tes chausses. Nous avons assez vu, mon bon ami, ton cul. » Ils rirent comme des bossus. Je profitai de l'accalmie pour leur parler raison. L'animal, cependant, rentrait dedans sa peau, claquant des dents et l'œil mauvais, car il sentait que le danger s'éloignait. Quand il fut habillé, sûr que ce ne serait encore pour aujourd'hui qu'on happerait le lièvre, il redevint vaillant et il nous insulta. Il nous nomma rebelles et menaça de nous faire condamner pour insulte au magistrat. Je lui dis « Tu ne l'es plus, magistrat, je te destitue !» Alors ce fut contre moi qu'il tourna sa colère. Le désir de se venger était plus fort que la prudence. Il dit qu'il me connaissait bien, que c'était moi dont les conseils avaient tourné les cerveaux faibles de ces mutins, qu'il ferait tomber sur moi le poids de leurs attentats, que j'étais un scélérat. Dans sa rage bredouillante, d'une voix aigre et sifflante, il déchargea sur mon dos un tombereau de gros mots. Gagnon dit « Faut-il l'assommer ?» Je dis « Tu fus bien inspiré, Raquin, de m'avoir ruiné. Tu le sais bien, gredin, que je ne puis te faire pendre sans risquer le soupçon que j'agis par vengeance pour l'incendie de ma maison. Et pourtant, le collier de chanvre siérait à ta beauté. Mais nous laissons à d'autres le soin de t'emparer. Tu ne perds rien pour attendre. L'important, c'est qu'on te tient. Tu n'es plus rien. Nous t'arrachons ta belle robe d'échevin. C'est nous qui prenons en main le gouvernail et l'aviron. » Il bégaya. « Tu sais, Brognon, ce que tu risques ?» Je lui réponds. « Je le sais, mon garçon, ma tête, et je la mets au jeu de qui perd gagne. Si je la perds, la cité gagne. » On le conduisit en prison. Il y trouva la place chaude que lui laissa un vieux sergent, enfermé 3 jours avant, pour avoir refusé d'obéir à son commandement. Les huissiers et le portier de la maison de ville, à présent que le coup était fait, disaient tous qu'il était bien fait et qu'ils avaient toujours pensé que le Raquin était un traître. À beau penser qu'il n'agit point. Jusque-là, notre plan s'était exécuté comme une planche lisse où glisse le rabot, sans rencontrer un nœud. Et je m'en étonnais. Je demandais « Où donc sont cachés les brigands ?» Lorsqu'on cria « Au feu !» Parbleu, ils pillaient ailleurs. Dans la rue, un homme essoufflé nous apprit que toute la bande mettait à sac les entrepôts de Pierre Poulard en Bethléem, hors la porte de la tour Lourdeau. Brisait, brûlait, buvait à tire-larigot. Je dis aux compagnons « S'ils veulent des violons pour danser, nous voici !» Nous courûmes à la Mirandole. De la terrasse, on dominait la ville basse, d'où montait dans la nuit un bruit de sabbat. Sur la tour de Saint-Martin, haletant, le tocsin grondait. « Camarade, il va falloir descendre, » dis-je, « en la fournaise. Ça va chauffer. Sommes-nous prêts ? Mais d'abord, il faut un chef. Qui le sera ? Veux-tu, Saulsois ?»« Non, 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 » fit-il, faisant 3 pas à reculons. « Je n'en veux pas. C'est bien assez que je sois ici, à minuit, obligé de me promener avec ce vieux mousquet. Ce qu'on voudra, ce qu'il faudra, je le ferai. Or, commandez. Merci Dieu, je n'ai jamais rien su décider. »
Je demandai.
« Alors, qui veut ?»
Mais aucun d'eux ne remua. Je les connais, ces oiseaux-là. Parler, marcher, encore cela va. Mais décider, il n'y a plus personne. L'habitude de finasser avec la vie quand on est petit bourgeois, d'hésiter et de tâter le drap qu'on veut acheter 50 fois, de marchander et d'attendre pour le prendre que l'occasion soit passée, ou bien le drap. L'occasion passe, j'étends le bras. « Si nul n'en veut, eh bien, c'est moi. » Ils dirent « Soit. » Seulement qu'on m'obéisse sans discuter de cette nuit. Autrement, nous sommes perdus. Jusqu'au matin, je suis seul maître. Vous me jugerez demain. Est-ce entendu ? »
Ils dirent tous « C'est entendu. »
Nous descendîmes la colline. J'allais devant. À ma gauche marchait Gagnon. À droite, j'avais mis Bardet, crieur de ville et son tambour. À l'entrée du faubourg, sur la place des barrières, déjà nous rencontrâmes une foule fort gaie, qui, sans méchanceté, s'en allait en famille, femmes, garçons et filles, vers l'endroit où l'on pille. On eût dit une fête. Certaines ménagères avaient pris leur panier, comme au jour de marché. On s'arrêta pour voir notre troupe passer, et les rangs s'écartaient poliment devant nous. Ils ne comprenaient pas, et, nous suivant d'instinct, emboîtèrent le pas. Un d'eux, le perruquier Perruche, qui portait une lanterne de papier, l'approchant de mon nez, me reconnut et dit « Ah, Brognon, mon garçon, te voilà revenu, et tu arrives à point, on va trinquer ensemble. »
« Il y a temps pour tout, Perruche, je réponds. Nous trinquerons demain. »
« Tu vieillis, mon colas, il n'y a pas d'heure pour la soif. Demain, le vin sera bu. Il le tire. Hâtons-nous. Est-ce que par hasard, la purée de septembre te dégoûte à présent ?»
Je dis « Le vin volé, oui. »«
Volé, il ne l'est point, dit-il, mais bien sauvé. Lorsque la maison brûle, faut-il donc bêtement laisser perdre les bonnes choses ?»
Je l'écartai de mon chemin.
« Voleur !»
Et je passais.
« Voleur !»
lui répétèrent Gagnon, Bardet, Saulsois, les autres. Ils passèrent. Le Perruche demeurait atterré. Puis je l'entendis furieux vociférer, et en me retournant, je le vis qui courait en nous montrant le poing. Nul de nous ne parut l'entendre ni le voir. Quand il nous eut rejoints, il se tut brusquement, et avec nous marcha. Arrivé sur la berge de Lyonne, à l'entrée du pont, impossible de passer. La foule était serrée. Je fis battre le tambour, les premiers rangs s'ouvrirent, sans trop savoir pourquoi. Nous entrâmes comme un coin, mais nous nous trouvions pris. Je vis là deux flotteurs que je connaissais bien, le père Joachim, dit le roi de Calabre, et Gadin, dit Gerlu. Ils me dirent «
Ça, ça, maître Brognon, que diable venez-vous faire ici, avec votre peau d'ânon et tous ces harnachés, graves comme des baudets? C'est-y que vous voulez rire, ou bien qu'on va en guerre ?»«
Tu ne crois pas si bien dire, Calabre, je réponds, car tel que tu me vois, je suis pour cette nuit capitaine de Clamcy, et je vas le défendre contre ses ennemis. »«
Ses ennemis ? » dirent-ils. « Tu n'es pas fou ? Qui donc ? » ?»«
Ceux qui brûlent, là-bas. »
« Mais qu'est-ce que cela peut te faire ? » dirent-ils, « maintenant que ta maison est brûlée. »
« Pour la tienne, on regrette, tu sais, on s'est trompé. Mais celle de Poulard, ce pandard engraissé de nos peines, ce torcoule qui se pavane avec la laine qu'il nous a sur le dos tendu, et qui, lorsqu'il nous a mis tout nus, nous méprise du haut de sa vertu, qui le vole ? Il est bien sûr d'aller tout droit au paradis. C'est pain béni. Laisse-nous faire. Que t'importe ? Encore passe de ne point piller, mais l'empêcher. Rien à perdre, tout à gagner. »
Je dis, car il m'eût fait gros cœur de cogner sur ces pauvres garçons sans avoir essayé d'abord de raisonner. « Tout à perdre, Calabre. Notre honneur à sauver. »
Notre honneur, ton honneur, dit Gurlu. Ça se boit-il? Ou bien si ça se baffre? On sera peut-être mort demain. Que restera-t-il de nous? Il ne restera rien. Que pensera-t-on de nous? On ne pensera rien. L'honneur est une denrée de luxe pour les riches, les bêtes qu'on enterre avec des épitaphes. Nous, on sera tous ensemble dans la fosse commune, comme des tranches de merluche. Va-t'en voir celle qui pue l'honneur ou bien l'ordure.
Seul, chacun, on n'est rien, c'est vrai, mon roi de Calabre. Mais tous, on est beaucoup. 100 petits font un grand. Quand auront disparu ces riches d'aujourd'hui, quand seront effrités avec leurs épitaphes les mensonges de leur tombe et le nom de leur race, on parlera encore des flotteurs de Clamcy. Ils seront dans son histoire sa noblesse aux rudes mains, à la tête dure comme leur poing. Et je ne veux pas qu'on dise qu'ils furent des coquins.
Gurlu dit « Je m'en fous !»
Mais le roi de Calabre, après avoir craché, cria « Si tu t'en fous, tu n'es qu'un saligoud. Il a raison, Brugnon. De savoir que ça se dit, ça me vexerait aussi. Et par Saint-Nicolas, ça ne se dira pas. L'honneur n'est pas aux riches. On le leur fera bien voir. Qu'ils soient sire ou messire, pas un d'eux qui nous vaille. »
Gurlu dit « Faut-il donc se gêner? Est-ce qu'ils se gênent, eux? Y a-t-il plus grand goulafre que ces princes, ces ducs, le Condé, le Soissons et le nôtre, le Nevers, et le gros d'Épernon, qui, lorsqu'ils en ont plein les bajoux et la panse, s'empiffrent les cochons de millions à crever, et quand le roi est mort, vont piller son trésor? Voilà leur honneur à eux. Vrai, nous serions bien bêtes de ne pas les imiter. »
Roi de Calabre jura.
« Ce sont des marcassins. Quelques jours, notre Henri reviendra de sa fosse pour leur faire rendre gorge. Ou bien ce sera nous qui les ferons rôtir tout farcis de leur or. Si les grands font les porcs, mordia, on les saignera. Mais dans leur porcherie, on ne les imitera. L'exemple, nous le donnons, nous. Il y a plus d'honneur dans la cuisse d'un flotteur que dans le cœur d'un gentilhomme.
Alors, mon roi, tu viens ?
Je viens. Et c'est celui-là, Gurlu aussi viendra.
Non, que diable !
Tu viendras, que je dis, où tu vois la rivière, et je te fous en bas. Allons, oust, marchons. Et vous, par la mer des, place, en douille, je passe. »
Il passait, refoulant les gens avec ses pilons.
Et nous, dans le remous, suivions comme un frottin derrière un gros poisson.